Europe Soir Weekend, Jeanne Baron.
Avec la guerre en Ukraine, il est plus que temps de trouver des alternatives au gaz russe parce que cette guerre, elle va continuer et que les sanctions prises contre la Russie et le chantage et les menaces de Vladimir Poutine sur l'interruption de la livraison de gaz russe, eh bien, ça ne laisse pas présager le mieux pour l'Europe. Donc l'Europe doit trouver des alternatives probantes, stables, pour pallier à ce manque. On en parle avec mes invités aujourd'hui. Michel Rémy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste et professeur d'économie à Sciences Po et à l'ESCP Europe. À distance, Jérôme Nury, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député LR de l'Orne et à l'origine de l'amendement pour aider les 3 millions de Français qui chauffent au fioul encore aujourd'hui. Et puis Léa Balage, El-Mariki, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire nationale adjointe Europe Économie Les Verts en préambule. Messieurs, dames, j'aimerais que nous écoutions ce qu'a dit le président Macron sur la dépendance au gaz russe. C'était au mois de juillet, mi-juillet. Et déjà, il ne présageait pas le meilleur.
Nous sommes dans ce qu'on appelle une guerre hybride. La Russie utilise l'énergie, comme elle l'utilise d'ailleurs l'alimentation, comme une arme de guerre. Je pense que nous devons aujourd'hui nous préparer à un scénario où il nous faut nous passer en totalité du gaz russe.
Nous passer en totalité du gaz russe, Michel Rémy.
Ça, c'est difficile à court terme, à moyen long terme, et encore, il convient de le faire. Je parle au nom de l'Union européenne, hein, je dis bien. En France, on dépend du gaz russe à peu près de l'ordre de 15 à 17%. À l'Union européenne, c'est beaucoup plus important. Et puisqu'on est à peu près de l'ordre d'une centaine de milliards de mètres cubes, et le fait de ralentir cet approvisionnement, de manière aussi abrupte, fait qu'on travaille en urgence et...
On ne travaille pas bien dans l'urgence ? C'est ce que vous voulez dire, Michel
Rémy ? La plupart du temps, oui. Hein, la plupart du temps, on pallie les difficultés rapides. Mais en même temps, après, quand l'urgence vient à s'installer, il convient de prendre des stratégies, après des mesures plus longues.
Jérôme Nury, il faut rester unis face à Vladimir Poutine. Ça, on l'a tous compris. Je crois que les partis sont d'ailleurs d'accord face à cette grande question. Est-ce que c'est une guerre de l'énergie que l'on vit ici ?
En tout cas, c'est une guerre qui impacte nos concitoyens. Que ce soit dans les villes, mais surtout dans les campagnes, où souvent on a des bottes de chauffage qui sont assez budgétivores. Et là, on est sur aujourd'hui des ménages qui ont du mal à faire face avec ces augmentations qu'ils sont en train de subir. Après, vous nous avez fait écouter le président Macron. C'est quand même lui aussi qui a désarmé, si on peut dire, la France, notamment sur le nucléaire, en n'anticipant pas du tout ce qui est en train de se passer. Et que finalement, la fermeture de Fessenheim, ne pas avoir anticipé à relancer un vrai programme nucléaire, fait qu'aujourd'hui, la France est très dépendante de ses énergies, et notamment du gaz.
Michel Rémy, vous êtes en plateau, vous vouliez intervenir, là, vous faisiez la tête. Pourquoi ?
Oui, il n'y a pas que M. Macron, et je ne fais pas de politique, c'est les gouvernements successifs qui n'ont
non,
pas...
Non, pas les gouvernements successifs.
Si, quand même, il y a le fait...
Le gouvernement de M. Hollande et les gouvernements de M. Macron.
Jérôme.
Ça fait pas... C'est pas forté uniquement... Je fais pas de politique, hein, je précise simplement.
Mais vous pouvez, Michel, la parole est libre.
Non, ce que je veux dire, c'est que ça s'inscrit dans la durée. Voilà, c'est tout. Après, qu'il y ait M. Hollande en plus, c'est pas le problème. Ce que je veux dire, c'est qu'on a mis longtemps à mettre ce programme nucléaire et que progressivement, on s'est désengagé. Et donc voilà, c'est tout. C'est toute cette remarque que je fais. Voilà.
Léa Balage, El-Mariki, comment est-ce qu'on arrive à être unis face à Vladimir Poutine alors que c'est tellement difficile de rester unis déjà en France, entre nos concitoyens ? Comment on fait ?
Alors, j'aimerais revenir sur plusieurs choses.
Allez-y.
Tout d'abord, sur le nucléaire qui vient d'être évoqué tout à l'heure, le nucléaire ne permet pas l'indépendance énergétique. On voit qu'il y a des centrales qui sont à l'arrêt et par ailleurs, le nucléaire ne se produit pas avec des ressources naturelles qui sont uniquement produites en France. Elles viennent aussi de pays qui parfois sont source de tensions ou dans des régions en conflit. Ça, c'est la première chose. Si on veut une réelle indépendance énergétique française, en réalité, il faut mettre le paquet sur les énergies renouvelables et donc se passer à moyen terme des énergies fossiles, que ce soit le gaz et le pétrole. Et donc se préparer à se passer du gaz russe, c'est finalement préparer l'avenir. Et donc c'est sur ça en fait qu'il faut être unis. Et là, le gouvernement nous parle d'une sobriété qui est en réalité du greenwashing. Mais on pourra peut-être y revenir si vous le souhaitez.
Mais bien évidemment, il faut y revenir parce que effectivement, il y a cette espèce de dichotomie entre l'économie d'un côté versus le réchauffement climatique de l'autre. Le gouvernement est pris cette fois entre deux prismes qui s'opposent au moment où l'on se parle parce qu'on est dans l'urgence. Michel Rumi, pourquoi est-ce qu'on n'arrive jamais à anticiper en France, que ce soit pour la crise énergétique, que ce soit pour la crise sanitaire, que ce soit pour la crise sociétale? On ne peut pas les accumuler comme ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ?
Bah, tout simplement, nous sommes les générations futures des générations passées. C'est-à-dire qu'on paye, on va dire, dans une certaine mesure, les inactions des gouvernements passés, quel que soit le thème et le domaine. Et simplement, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, en même temps, les impératifs politiques font que on se doit de prendre des décisions en urgence et au lieu d'envisager des stratégies. Donc, c'est ce que je veux dire, c'est que
vous venez de le dire, on les prend sur l'urgence. Oui. On n'envisage pas les stratégies.
Oui, mais bien sûr. Mais parce que
la vraie question, c'est pourquoi ?
La question maintenant, c'est avec M. Poutine, on nous incite, ça peut être un bon côté, à changer et aller vers une transition écologique et environnementale. Ça nécessite de l'argent. Et après, la difficulté, c'est où on trouve, d'une part, de l'argent pour régler les problèmes urgents, et deuxième chose, envisager des plans. Bien sûr qu'on peut faire. Et en même temps, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si je prends le plan des centrales nucléaires, il a été lancé en 70, et les gouvernements successifs étaient d'accord sur la prééminence du nucléaire. Et ce qu'il faudrait, c'est que, même si on initie, quelle que soit la coloration politique, un plan sur la transition écologique, il faut que les différents gouvernements successifs ne remettent pas en cause cette orientation.
Jérôme Nury, vous avez justement voté cet amendement pour aider les 3 millions de Français qui chauffent au fioul encore aujourd'hui. Le gouvernement, lui, il avait prévu un bouclier tarifaire pour ceux qui se chauffaient au gaz ou à l'électricité, mais rien pour ceux qui se chauffaient au fioul. Alors, c'est vrai qu'en même temps, chauffer au fioul, c'est pas le plus écologique, mais quand on a 3 millions de Français qui se chauffent encore au fioul, il fallait les aider. C'était ça vraiment ce que vous vouliez chez les Républicains ?
Oui, parce qu'en fait, on était face à une incroyable injustice. En fait, c'est une injustice territoriale parce que la plupart des gens qui se chauffent au fioul se trouvent en milieu rural, dans les campagnes, là où on ne va pas retrouver des réseaux de chaleur, des réseaux gaz. Et donc, c'est souvent des personnes qui n'ont pas le choix, qui, pour se chauffer, sont obligées d'avoir une chaudière fioul. Et quand on voit l'augmentation des tarifs en quelques temps, en un an, le prix du fioul a quasiment doublé. En fait, on s'est dit que pour refaire le plein des cuves à l'automne, on a beaucoup de nos concitoyens qui n'y arriveraient pas. Et donc, le seul moyen, c'est d'avoir un accompagnement de l'État. Même si on sait très bien que cette source d'énergie n'est pas vraiment vertueuse au niveau environnemental.
Mais est-ce qu'on peut tout attendre, Jérôme Nury, de l'État aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut tout attendre ? Est-ce qu'on peut tout attendre ?
Vous voyez, c'est deux. Tout attendre,
mais... Je voudrais bien réagir sur
allez-y,
cet amendement.
Allez-y, Léa Balagène-Marie.
Parce qu'en réalité, cet amendement ne couvre pas la moitié de l'augmentation du prix du fioul. Et par ailleurs, il a été gagé. C'est-à-dire qu'on parlait de l'argent qu'on doit trouver pour la rénovation ou bien pour la transition écologique. Et bien là, il a été gagé sur la politique de la ville, c'est-à-dire la politique qui permet des quartiers de pouvoir s'en sortir tout simplement, à avoir des politiques sur l'emploi, sur l'insertion ou bien sur l'accès à la culture, aux services publics. Et donc là encore, on a opposé des citoyens ruraux à des citoyens urbains ou périurbains avec un amendement qui a été très très mal gagé. C'est-à-dire dont les sources de financement ont été malheureusement au détriment de millions d'habitants de ces quartiers populaires.
Excusez-moi, mais la personne qui parle...
Jérôme Nury. Léa Balagène-Mariki est secrétaire nationale adjointe Europe Écologie Les Verts, Jérôme Nury.
Ah d'accord, donc elle n'est pas députée.
Parce qu'il faut être député pour pouvoir s'exprimer sur
Europe 1, non, pas du tout, non, parce qu'elle n'a pas l'air d'être au courant des procédures. En fait, le gage...
Alors, on vous écoute, Jérôme Nury.
Le gage a été levé par le gouvernement et par Bruno Le Maire au Sénat. Donc les crédits ne seront pas pris sur la politique de la ville, ils seront bien pris
tout à fait,
sur le
mais
budget
votre proposition
général
en tant que député, votre proposition en tant que député, merci, votre proposition en tant que député, c'était bien de le gager sur la politique de la ville. Je voulais juste revenir sur la philosophie de cet amendement tel que déposé par les Républicains.
Mais si alors, il n'est pas déposé par les Républicains, il était déposé par moi-même et co-signé par un certain nombre de collègues républicains, mais je vous signale que il y a énormément de groupes qui ont voté cet amendement, à commencer d'ailleurs par la France Insoumise et beaucoup de députés de NUPES. Et que dans la technique parlementaire, il n'y a pas le choix, il faut toujours gager son amendement en prenant des crédits sur d'autres politiques. Et donc, l'idée à chaque fois, c'est que le gouvernement...
C'est
pas un choix politique. C'est un choix technique qui fait que derrière, le gouvernement peut lever le gage. C'est ce qui s'est passé au Sénat.
Allez, on va enchaîner. Je vais vous proposer de réagir comme vous le faites. Et merci, par ailleurs, à vous trois, sur ce qu'a déclaré aussi Olivier Véran au sujet du gaz russe. Décidément, le gouvernement, il la sent, la pression de Poutine.
Nous nous attendons toujours à ce que la Russie coupe le gaz à destination de l'Europe à tout moment, peut-être d'ici cet automne, d'ici cet hiver. Pourquoi je dis ça ? Nous attendre à ce que ça arrive nous pousse et nous améliore, je dirais, dans l'anticipation à l'échelle européenne et nationale de comment est-ce qu'on réagira le jour où ça arrivera.
Dis donc, Michel Rémy, quel bel hiver nous attend ?
Oui, mais c'est tout l'objet aujourd'hui des différents gouvernements européens à faire des stocks en prévision de l'hiver. En France, on est à peu près 70%. Pour passer un hiver, on va dire, confortable, sans excès, il faudrait arriver à 90%. Mais tous les pays européens ne sont pas à ce même niveau. Donc ça veut dire qu'il faudra faire face à la Russie, il faudra faire preuve de solidarité, on va dire, entre Européens, et ce qui n'est pas gagné.
Alors comment est-ce qu'on remplit nos stocks au maximum pour se préparer un hiver sans hydrocarbures russes, notamment ?
Oui, ben on en achète, on en fait en venir. La grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on en fait venir, c'est avec du gaz liquéfié. Et donc après, on remplit les cuves. Le grand problème, c'est qu'au niveau européen, tout le monde n'a pas ce type de procédé, on va dire, puisqu'il faut faire arriver des bateaux. Donc on voit bien qu'il y a certains pays qui n'y arrivent pas. Donc ce qui veut dire qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène de rebours, c'est-à-dire que la France accueille du gaz et le retourne vers l'Allemagne, par exemple. Le rebours entre la France et l'Allemagne, c'est de 15% à peu près. Donc, ce qui va se poser, c'est là où ce qui peut poser le problème, c'est que le gouvernement nous demande de faire des économies d'énergie, c'est-à-dire notamment un changement de comportement. Donc, on va baisser, on va dire, notre consommation, on va faire des économies de façon générale, mais en même temps, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que, et même au niveau européen, est-ce que, même si on fait des économies dû au changement de comportement, est-ce qu'on a la capacité d'exporter ? Et là, ce n'est pas gagné parce que tout le monde n'a pas les structures, on va dire, pour accuser cela.
Alors, Michel Rémy, vous venez de parler justement de ce terminal méthanier dont il est question. Léa Balage-El-Mariki, vous qui êtes secrétaire nationale adjointe Europe Écologie Les Verts, on a bien compris que ce terminal méthanier, qui va être le cinquième en France et qui va être construit au Havre, doit faire venir du gaz naturel liquéfié. On va le rappeler encore. Il s'agit du gaz de schiste extrêmement polluant qui va venir des États-Unis. Est-ce qu'on avait un choix différent ? Est-ce qu'on pouvait faire autre chose, d'après vous ?
Bien sûr qu'on a des choix différents. Il faut savoir que c'est Total Energy qui va hériter de l'exploitation de ce terminal méthanier. Et vous le disiez, le gaz de schiste, alors que nous avons interdit son exploitation en France, va être exporté et donc va augmenter nécessairement notre empreinte carbone, celle de la France. La manière dont il faut agir, c'est la sobriété énergétique. C'est-à-dire que dès maintenant...
Mais on peut aujourd'hui, on peut les abalager le maritime, malgré cette crise ?
On peut le faire. Si vous voulez, si vous ne faites pas les changements qui sont nécessaires pendant les périodes de crise, eh bien, vous ne le faites jamais. Et donc, c'est pour ça qu'il faut engager dès maintenant une véritable sobriété énergétique. On oublie deux choses quand on parle de la sobriété énergétique dont nous parle le gouvernement. C'est d'abord que 12 millions de personnes vivent dans une grande précarité énergétique. Et que par ailleurs, 10% des ménages les plus riches émettent 8 fois plus que 10% des ménages les plus pauvres. Donc en réalité, il y a une vraie inégalité. Il y a déjà plein de ménages qui vivent dans une grande précarité et donc une sobriété énergétique. Et donc il faut faire en sorte que les plus grands contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre, les plus gros, contributeurs à cette dépendance énergétique que nous avons, eh bien, puissent payer un peu plus. Et c'est notamment la contribution exceptionnelle sur les surprofits qui a été proposée à l'Assemblée nationale, qui a été proposée au Sénat et qui a été refusée. Cette contribution exceptionnelle sur les surprofits des pétrogaziers comme Total, qui a fait plus de 6 milliards de profits en très peu de temps, permet de financer, par exemple, la rénovation thermique des logements et donc réduire notre dépendance aux énergies fossiles, que ce soit le gaz ou le pétrole, encore une fois. Et ça, ça peut se faire très, très rapidement.
Jérôme Nury, est-ce que vous êtes d'accord avec Léa Balagel-Mariki? Est-ce qu'il y avait une autre solution, notamment dans la loi, ce paquet pouvoir d'achat, hein, ce sont dans ces articles 14, 15 et 16. L'article 14, lui, il permet de rouvrir une usine à charbon en Moselle. Et puis les articles 15 et 16, ils légifèrent en quelque sorte la création de ce terminal, le méthanier au Havre. Est-ce qu'on pouvait, pour vous, Jérôme Nury, faire autrement ou est-ce qu'on n'avait pas le choix, comme pour le fioul?
Non, mais là, vous comprenez bien qu'on est face à l'urgence et qu'on est tous d'accord pour dire que finalement... La meilleure énergie, c'est celle que l'on ne consomme pas et qu'on a intérêt effectivement à encourager nos concitoyens à isoler, à faire appel à des modes de chauffage qui soient plus vertueux. Donc là, il y a aujourd'hui toute une série d'accompagnements. Hein. Par exemple, nous dans l'Orne, on a beaucoup d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat avec des crédits ANA, des crédits région, des crédits département. Mmh. On a toute la politique des certificats d'économie d'énergie, mais tout ça finalement prend du temps à chaque fois.
Aujourd'hui, mais est-ce qu'on a du temps, Jérôme Nury? Est-ce qu'on a le temps?
Mais c'est pour ça que je vous dis que là, il fallait faire face à l'urgence.
Le nucléaire,
il fallait faire face à l'urgence.
Allez-y, Léa Balagel-Mariki.
Non, mais quand j'entends moi parler du nucléaire, par exemple, comme une des solutions, le nucléaire, c'est dans 20-30 ans. Donc, quand on parle d'urgence, il faut véritablement, maintenant, réduire notre dépendance à la production d'énergie fossile ou que ce soit le pétrole ou le gaz.
Justement, à ce sujet, écoutons ensemble Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique. Elle a été très claire. Il faudra baisser le chauffage cet hiver, donc il faudra réduire notre dépense d'énergie. Voilà un point commun peut-être que vous avez élevé avec Renaissance.
Aujourd'hui, vous avez une loi qui prévoit que la température de consigne, c'est 19 degrés. Et la vraie question, c'est la respecte-t-on? Et donc, moi, je vais vous dire, si on respecte la loi, on est très confortable.
Comment on fait pour faire respecter la loi, alors?
Parce que la loi, en effet, n'est pas respectée, madame. Je ne demande pas aux Français qui sont à 15 degrés de baisser leur chauffage à 14 degrés. Ça n'a pas de sens. Mmh. Ce que je demande, c'est dans les copropriétés où on est à 21, 22 degrés, ce qui est d'ailleurs pas très bon pour la santé des enfants et la santé des personnes âgées, que l'on passe à la température de consigne de 19 degrés.
Est-ce que vous pensez qu'elle va baisser le chauffage chez elle, Agnès Pannier-Runacher, à 19 degrés? Dites-moi, Michel Rémy, vous en pensez quoi?
Je le souhaite, quoique il semblerait que certaines consommations...
C'est pas très bon pour la santé d'aller à 22 ans.
Oui, oui, non, tout à fait. Non, mais je pense que ce qu'il faut voir, c'est que la solution, on va dire, pour ça, c'est pas la solution. On va dire, la possibilité de s'en sortir face à une situation d'urgence, c'est qu'il y a des solutions, il y a de la sobriété, et puis en même temps, un changement de comportement. Mmh. Le changement de comportement, c'est à tout le monde. C'est-à-dire qu'on demande, par exemple, que dans les bâtiments publics, la température baisse, mais que chez nous, en tant que particulier également, puis en même temps, on va aussi changer la manière de produire au niveau des entreprises. Donc c'est ça qui fait. C'est-à-dire qu'on fait preuve à la responsabilité de dire, il convient de changer vos habitudes et l'État doit aussi donner l'exemple. Mmh. Sinon, si on reste sur, la consommation à tout va, eh bien, on risque d'avoir des gros problèmes parce qu'on paiera plein pot l'énergie par la suite. Quoi.
Mais est-ce qu'en réalité, l'une des alternative qui marche au gaz russe, ce ne serait pas surtout de lutter efficacement contre les passoires thermiques avec mais de vraies réformes, avec des aides notamment. Jérôme Nury.
Là-dessus, on est bien d'accord. Je vous l'ai dit, il y a énormément d'aides aujourd'hui qui sont mises en place. Le problème, c'est qu'il y a des pénuries aujourd'hui sur la géothermie, sur les autres alternatives qu'il y a. Vous avez même aujourd'hui des pénuries sur le bois, quand vous mettez par exemple des chaudières bois déchiquetées. Et on manque de pellets, on manque de granulés. Donc en fait, moi je veux bien qu'on encourage les personnes à changer de chauffage là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais derrière, ça ne va pas suivre en quelques mois, vu les pénuries qu'il y a et tous nos artisans, les chauffagistes sont débordés en termes de boulot. Donc en fait, on est sur des solutions qui seront sur du moyen terme. Aujourd'hui, ce que l'on essaye, c'est de faire face à du court terme, pour que les gens cet hiver puissent se chauffer et puissent vivre décemment. C'était ça aussi le but, c'était cette loi pouvoir d'achat.
Oui, bien sûr.
Là où vous faites, j'ai l'impression, monsieur le député, que vous oubliez quelque chose, c'est qu'on peut conjuguer les deux. C'est-à-dire agir très concrètement sur le court terme et préparer le moyen terme pour sortir de cette dépendance énergétique avec des pays qui sont soit proches d'être des dictatures, soit complètement en guerre avec le reste de l'Europe. Et donc ça, on peut le faire et on doit le faire. Et on parlait en début d'émission, en début de débat, d'anticipation des politiques publiques. En réalité, et là je vous rejoins un peu, l'ensemble des gouvernements précédents mais que ce soit de Sarkozy en passant par Hollande et surtout
Sarkozy,
le gouvernement
Macron. Sarkozy, c'était il y a plus de 10 ans. Hein.
Oui, mais il y a plus de 10 ans, on parlait déjà d'énergie renouvelable et de notre dépendance au pétrole. Et
nous,
je vais peut-être terminer.
En même temps, s'il vous plaît, Léa.
Je vais terminer.
Léa Balagel-Mareki.
Merci. Et donc, la nécessité de pouvoir travailler sur ce moyen terme pour nous sortir notre dépendance aux énergies fossiles, elle est nécessaire pour le pouvoir d'achat des Françaises et des Français, elle est nécessaire pour notre dépendance même, on va dire notre souveraineté nationale, et elle est nécessaire pour le climat. On le voit maintenant, les trois sont conjugués. Maintenant, comment on fait très concrètement pour agir? C'est aussi changer notre modèle de consommation. On parlait des petits gestes, de baisser son chauffage de quelques degrés. Mais il faut arrêter, par exemple, la publicité sur l'espace public. Il faut arrêter le gaspillage.
C'est en train d'ailleurs d'être légitimé. Mais Léa Balagel-Mareki, est-ce que... Je vais vous poser cette question très clairement. Vous allez vous chauffer à 19, vous, cet hiver? C'est ça, vos petits gestes du quotidien? Non, mais très franchement, vous allez le faire?
Alors, j'ai de la chance d'habiter dans un appartement qui est très bien isolé.
D'accord.
Donc, je n'ai pas besoin de
Mais pas comme la majorité des Français. Jérôme Nury,
exactement, il y a 12 millions de personnes qui vivent dans des passoires thermiques. Et pour pouvoir les rénover, pour pouvoir renouveler le parc social uniquement, on a besoin de 10 milliards d'euros. Ces 10 milliards d'euros, on pouvait aller les chercher avec la taxation des surprofits réalisés notamment par Total Energy. Et ça a été refusé par le gouvernement, alors que le Royaume-Uni, alors que l'Italie...
Non, c'est encore sur la table, Léa Balagel-Mareki, ça revient sur la table. Jérôme Nury, vous nous le confirmez que c'est encore sur la table, vous qui êtes député LR
de Oui, oui, oui. Mais là, on est en train de parler exclusivement du chauffage pour les hydrocarbures.
Allez-y, Jérôme.
Moi, je pense qu'il y a aussi un vrai sujet sur la mobilité. Et notamment, on n'en a pas parlé, mais en fait, sur le prix aujourd'hui des carburants. Et là-dessus aussi, nous ne sommes pas à égalité entre... les personnes qui vivent en campagne et les urbains qui, eux, ont des transports en commun. Donc là aussi, il y a une action qu'il va falloir entreprendre très vite. Et c'est pour ça qu'au niveau des Républicains, nous avons voulu qu'il y ait une mesure forte dans cette loi qui permette à nos concitoyens de voir le prix des carburants baisser, parce que dans les campagnes, on en a besoin pour aller bosser, pour aller emmener les enfants à l'école, pour aller aux loisirs, etc. Donc là, on est focalisé exclusivement sur le chauffage. Une fois encore, sur la mobilité, il y a un vrai sujet.
Michel Rumi, vous étiez d'accord avec ce que vient de dire Jérôme Nury, hein ?
Oui, il y a, et même sur les deux intervenants, moi, ce que je veux dire, c'est bien sûr qu'il faut rénover les bâtiments. Le grand problème, c'est qu'il y a un problème de formation. On n'a pas assez d'artisans qui puissent faire cette rénovation dans un court laps de temps. Donc c'est pour ça que c'est une stratégie de moyen terme, parce que bien sûr qu'il convient de rénover l'ensemble des bâtiments, mais on va avoir un problème de main-d'œuvre, de compétences par rapport au volume de bâtiments à refaire. Donc bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est que j'aimerais qu'on se repose cette question, puisque cette économie d'énergie, ça viendra jusqu'on va dire jusqu'en mars à peu près, qu'au premier semestre, on va dire 2023, que ce débat revienne, puisque j'espère on aura du beau temps et qu'on commence à justement avoir toute cette réflexion, qu'on les met en œuvre, qu'on puisse les mettre en œuvre avec bien sûr les moyens aussi bien financiers, mais en même temps de mettre en place les formations pour permettre et déjà initier certaines rénovation de bâtiments. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est d'urgence, on va en parler, et puis après on laisse passer le truc.
De toute façon, on n'aura plus le choix. Hein.
Oui,
là, la planète nous fait savoir qu'on ne peut pas faire grand-chose.
Je suis d'accord, mais il y a tellement de sujets en urgence qu'il faudra les traiter. Mm-hmm. Et je suis entièrement d'accord avec M. Nury sur, on va dire, la discrimination entre guillemets, entre provinciaux et urbains. Et ça, c'est là aussi. Mais ça pose aussi le problème de... On aurait, et c'est le problème de la notion de la loi de pouvoir d'achat, de ne pas avoir assez ciblé, on va dire, les personnes qui sont vraiment... en demande et en demande d'accompagnement, et d'autres qui ont, on va dire, un peu plus de moyens pour faire face à cette inflation.
Alors au moment où on demande aux Français, Léa Balagel-Mareki, je vous donne la parole dans une seconde, parce qu'au moment où on demande aux Français de faire des efforts, de baisser le chauffage, d'arrêter le Wi-Fi, de débrancher la machine à laver, ou encore de ne plus prendre la voiture même à la campagne, les ministres, eux, est-ce qu'ils montrent l'exemple? Hier, il y avait le dernier Conseil des ministres. Les voitures, elles tournaient à vide pour que la clim rafraîchisse l'habitacle. Je pense que vous avez vu ces images malheureuses. On doit être irréprochable quand on est au pouvoir. C'est la question que je vais vous poser juste après, parce que Luc Boyard, député NUPES du Val-de-Marne, lui, il était sur BFM TV hier et il s'est exprimé à ce sujet.
On savait déjà que la crédibilité de La République En Marche était assez douteuse en termes d'écologie. Là, on a encore un exemple de plus. Ils demandent aux Français de faire des efforts. Ils ne sont pas capables de se les appliquer eux-mêmes. Et puis, c'est à l'image en fait, de toute leur politique écologique et de leur bilan en la matière. Je ne suis pas étonné. Je suis assez amusé parce qu'encore une fois, ça va être difficile pour eux de justifier sur le fait qu'ils sont très mauvais en écologie. Donc un exemple de plus qui montre pourquoi est-ce qu'il ne faut pas leur faire confiance en la matière.
Jérôme Nury, faut pas faire confiance au gouvernement en la matière ou est-ce qu'il a été un peu dur là, Louis Boyard ?
Non, mais c'est vrai qu'en termes d'image, c'est pas terrible et que des voitures qui tournent à vide pendant plusieurs heures, alors qu'on demande aux Français de faire des efforts, c'est vrai que ça fait pas très sérieux. Et moi, je comprends que ça mette en colère certains et je comprends que ça puisse choquer. Finalement, ce qui est bien, c'est que dans cette affaire, ça aura permis peut-être au gouvernement de prendre conscience qu'il faut être vertueux aussi quand on veut donner des leçons aux uns et aux autres.
Léa Balage-El-Mariki, c'est la moindre des choses d'être vertueux quand on donne des recommandations aux uns et aux autres ?
C'est juste une mesure d'efficacité énergétique. On ne fait pas tourner une voiture à vide avec la climatisation comme ça allumée. C'est au-delà du symbole, effectivement, qui énerve et qui agace. C'est simplement qu'il faut arrêter d'avoir ce genre de comportement si on se prétend un peu écolo.
Michel Vremy, ça vous a choqué, vous, ces images ?
Oui, puisque la philosophie en matière commune dit que charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc ça rejoint un problème d'image. Ça, on ne peut pas demander aux autres ce que nous ne faisons pas. La difficulté, et j'ai le respect du rang qui est le leur, hein, du rang hiérarchique, mais je pense que en sortant d'un Conseil des ministres, où je pense, hein, là, je, n'étant pas invité, le Conseil des ministres a été une salle qui est relativement agréable de siéger.
Vous voulez dire climatisée ?
Je ne sais pas. Donc je peux pas
très
répondre.
Probablement.
Et rentrer dans une voiture où il fait peut-être un peu chaud pour faire aller 10 minutes, une demi-heure de trajet, c'est quand même supportable, au lieu de laisser tourner 2 heures la voiture. Donc c'est là. C'est rien qu'une histoire de vertu. Et le grand problème, c'est que pour associer en même temps les mesures et les orientations que le gouvernement nous demande, il serait bien de aussi montrer l'exemple.
Alors on arrive sur les deux.
Après,
allez-y.
Après, je voulais juste vous dire, oui, tout ça est quand même de l'ordre du symbole.
Oui, bien sûr.
Donc c'est important.
Mais la politique, c'est du symbole, Jérôme Nury. Vous le savez.
Quand vous pensez que la prochaine Coupe du Monde va s'organiser dans des stades en plein désert qui seront climatisés. Là, vous imaginez un peu la déperdition et le peu de vertu que c'est par rapport à l'environnement, quoi. À un moment donné, il y a ça aussi. Il faut qu'on arrête de faire n'importe quoi sur la planète entière avec des événements comme la Coupe du Monde de foot.
Il nous reste 1 minute 30 avant de finir cette émission et ce débat. Et je vous remercie pour la qualité de vos échanges. Juste une question. On sait que Berlin est très dépendant au gaz russe. Ça va débrancher beaucoup, hein, notamment dans les monuments pour économiser de l'énergie, etc. Est-ce qu'on devrait suivre en France le même chemin rapidement ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Léa Balage-Mariki ?
En réalité, c'est en train déjà de se passer avec des piscines qui ferment dans certaines communes pour faire des économies simplement pour les collectivités qui n'ont plus d'argent, mais aussi pour faire des économies d'énergie. Donc, c'est déjà en train d'arriver. Et donc, il faut travailler à ce que les services publics soient maintenus, notamment en zone rurale, notamment dans les quartiers politiques de la ville où l'accès à ces services publics sont le plus difficile pour un certain nombre de citoyennes et citoyens qui ne partiront pas en vacances, en ont besoin parce que ce sont leurs biens communs finalement.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été mes invités pour ce débat. On vous rappelle le thème « Quelle alternative au gaz russe aujourd'hui ?» Michel Ruimi, économiste et professeur d'économie à Sciences Po et à l'ESCP Europe. Jérôme Nury, député LR de l'Orne et à l'origine de cet amendement pour aider les 3 millions de Français qui chauffaient au fioul encore aujourd'hui. Et puis Léa Balage-El-Mariki, secrétaire nationale adjointe EELV. Vous pouvez bien évidemment réécouter ce débat, mais tous les autres, sur europe1.fr. L'info, nous, eh bien, elle continue sur notre antenne. Il est bientôt 20h, pas tout à fait. On y va dans un instant à suivre le journal.